c'est la période la plus difficile que j'ai vécue dans ma vie. Et j'espère que ce sera la seule. Et je souhaite à personne de passer par là. J'avais peur de tout, j'avais peur de moi, j'avais plus aucun plaisir à vivre. Je n'y voyais plus aucun intérêt. Ou la seule chose qui était là, c'était survivre. Survivre pour faire plaisir à mon mari et à mes parents.
J'étais terriblement angoissée, j'avais peur de mal faire avec lui. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose par ma faute. J'avais peur de cette responsabilité. Et j'avais peur aussi parce que du coup j'étais à bout. J'avais peur d'être violente aussi avec lui. Et j'ai eu des moments où j'ai failli le secouer. Tout ça parce qu'en fait il n'arrivait pas à dormir et je ne comprenais pas ce qu'il avait. J'ai pleuré. Les larmes, les pleurs, c'était insoutenable pour moi. Parce que ça me renvoyait, je ne sais pas, à mon incompétence. Voilà ce qu'on se dit dans ces moments-là. Et donc voilà, beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance comme ça.
Ce qui m'a manqué, de ne pas être une maman comme les autres, que ce ne soit pas simple, comme on pourrait le lire un peu partout, ou quand on voit des photos dans les magazines, des mamans avec leur bébé dans les bras, c'est toujours avec un bébé heureux et une maman souriante. Ces moments-là, un peu, m'ont manqué.
Mal de mer, un documentaire d'Adèle Paquelier.
En fait, quand il est arrivé, ils m'ont entendu et ils l'ont mis sur mon ventre comme le fameux truc fait que normalement, c'est ultra magique et puis en fait, c'est carrément pas vrai. Et je l'ai vu, j'ai fait, mais ah ouais, c'est un vrai bébé. Ah ouais, ça déconne plus là. Et ouais, waouh. Donc voilà, j'ai eu ça. Après, c'est vrai que je l'ai eu sur moi, j'ai caressé son petit dos, il était tout petit, tout doux. Bon, il y avait de l'émotion, il y avait quelque chose, mais parasité par cette angoisse inouïe. J'ai jamais ressenti ça avant, quoi. Et encore, là, c'était pas le pire. Parce que c'était au tout début, c'était inconnu, on ne connaît pas encore, ça ne s'était pas installé. Mais il y avait déjà quelque chose, même pendant ma grossesse, je pense.
Clémentine a été déclenchée, j'ai eu un accouchement merveilleux. Je n'ai pas souffert, j'ai eu une péridurale, mais Clémentine est arrivée tellement rapidement qu'en fait, je n'ai même pas eu le temps d'avoir la péridurale. Enfin, la péridurale n'a pas eu le temps de fonctionner, elle est arrivée... comme une petite fleur, une petite fille adorable. Elle est née, c'était la plus belle des petites filles. C'était la chair de ma chair. Vraiment, c'était ma... Et déjà, elle est née à minuit. Je suis rentrée dans ma chambre à 3h du matin et je n'ai pas dormi jusqu'au lendemain soir. Où vraiment, je n'ai fait que la regarder. M'émerveiller devant ma fille. Et sans avoir aucune sensation de fatigue. Et euphorique, pas moi en fait. Sans que je m'en rende compte en fait, j'en étais pas consciente de cet état-là. Je vivais à 100 à l'heure, ce qui me correspondait pas. C'est-à-dire que ma Clémentine dormait pas, je ne dormais pas bien évidemment, mais quand elle dormait, je dormais pas non plus, parce que soit je la surveillais, ou je faisais du ménage, je faisais à manger, enfin... Et puis au fur et à mesure... Il y a ce sentiment d'angoisse qui est arrivé, où j'étais tout le temps cette crainte de la perdre. Tout le temps aller vérifier qu'elle respirait quand elle dormait, je mettais mon doigt sous ses narines pour sentir l'air passer. Des fois, je la bougeais un petit peu pour voir si elle avait des réactions. Et ça a commencé comme ça, pareil, sans que je me rende compte en fait que c'était... C'était pas sain comme comportement, c'était qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'étais pas capable de le reconnaître, ça, que ça n'allait pas. Non, j'avais ma fille dans les bras, voilà, elle était là, c'était ce que j'attendais depuis tellement longtemps, d'avoir mon bébé dans les bras, que non, je m'autorisais pas à ne pas aller. Ça pouvait que aller.
Moi, je m'entends pas, maman. Tu peux me mettre le son. Allez. I'm afraid. On est. Ah, on est. Elle est message tout. Bah, vous savez dire.
Et là, c'est là que la dépression a vraiment commencé, où une nuit, j'ai vécu l'horreur, en fait. Comme d'habitude, elle s'est réveillée, je suis allée la chercher, je lui ai donné le sein, et au moment où je suis allée la recoucher, enfin la changer plutôt, j'ai ouvert sa couche, et je sais pas, un quart de seconde peut-être, je me suis imaginée, donc être une mère incestueuse. Sans qu'il y ait aucun acte, quoi que ce soit, mais une pensée comme ça. Et là, ça a été le début d'une période très sombre et très très difficile, en fait. C'était en pleine nuit. J'ai tout de suite réveillé mon mari et je lui ai expliqué. Et là, lui, il a pas... Tout de suite, il m'a rassurée en me disant que non, enfin, on se connaissait depuis des années, qu'il savait très bien qu'il n'y avait pas de soucis, que je m'étais occupée de plein d'enfants avant, qu'il n'y avait jamais eu de soucis, que jamais ça m'avait effleuré l'esprit, que là, c'était juste une idée noire qui passait par là et que voilà, j'allais redormir et que ce serait fini. Sauf qu'en fait, j'ai redonné le sein à Clémentine avec un réel mal-être, je l'ai recouché. Et là, ça a commencé à être extrêmement difficile. Où cette idée-là n'arrivait pas à me sortir de la tête. Où j'avais peur de la prendre dans mes bras, j'avais peur de m'occuper d'elle, j'avais peur de moi, j'avais peur de... Je ne me reconnaissais plus.
J'avais des frayeurs, mais des trucs pas rationnels, du style... Je me mettais très loin de son berceau qui était collé à mon lit parce que j'avais peur que mon oreiller... Non mais attends, que mon oreiller dessous ma tête passe, saute, je ne sais pas par quel miracle, sur son lit pour l'étouffer. Vous voyez un truc. Donc je me décalais presque au milieu du lit pour... Et n'importe quoi. Et vous imaginez de vivre avec des angoisses comme ça perpétuelles sur des petits détails comme ça. Ça c'était... Et puis lui, du coup, il le ressent. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma mère, elle est angoissée? Du coup, non, il ne faut pas que je dorme, parce que si je dors, elle va être encore plus... Enfin, j'en sais rien ce qu'il doit se dire, mais il doit se dire des trucs comme ça, quoi. La nuit, il se réveillait tout le temps, en plus, il dormait à côté de moi. Donc, il se disait, tiens, je prendrais bien un petit peu de lait. Bah oui, mais moi, je voudrais dormir. Et comme j'étais à côté, en même temps, il sentait l'odeur, il me sentait moi. Donc, on ne dormait pas tous les deux. Moi, je dormais, mais des nuits à ne pas dormir, vraiment, quoi. Ouais, si je somnolais, déjà j'arrivais pas à m'endormir, et ensuite dès que je commençais à somnoler, lui il se réveillait. Donc c'était vraiment, je sais pas si vous imaginez ça pendant 5 mois quoi, pas de sommeil. Et quand j'essayais, même quand je dormais, quand j'arrivais quand même à dormir, par mes rêves, par des trucs, je pense que je me reposais pas. Et donc la fatigue, l'épuisement, des crises de larmes, des angoisses, des crises de, des fois de me dire mais j'en peux plus, et puis de me dire mais c'est ça, mais je vais pas tenir. Je ne vais jamais pouvoir tenir, comment je vais faire? Et quand j'en parlais à mon conjoint, il me disait, mais on est obligé, enfin on est parents, enfin c'est dur, mais il faut, on n'a pas le choix. Et là, je me sentais coincée. Et c'est là que j'ai dit, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je meure, quoi. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Donc voilà, et je suis toujours émue quand j'en parle de ce moment. Donc, me sentir coincée comme ça, je voyais qu'une issue, c'était de partir.
Alors, là, on va sortir à Saint-Cyr-l'École, qui est la ville, hein, voilà, on a la sortie. Hop, là où j'ai été à la maternologie, donc la maternologie de Saint-Cyr-l'École, et j'ai passé 3 mois. Puis c'est pile la date anniversaire, parce que ça va faire à peu près 3 ans maintenant que j'ai été hospitalisée là-bas, en unité mère-enfant et maternologie. J'avais appelé le lundi matin, j'en pouvais plus, j'ai crisé pendant le week-end, j'ai fait maintenant faut qu'on m'aide, faut que ça s'arrête tout ça. Et puis ils m'ont rappelé, ils m'ont fait, on a un rendez-vous pour vous, venez. Et moi je suis partie avec mon sac, comme si j'allais être hospitalisée tout de suite. J'avais tout préparé, le sac, les affaires de Charlie, tout était dans le coffre. Et en fait, j'ai eu juste un entretien et j'étais contente d'y aller parce que je me disais, on va s'occuper de moi, ça y est. C'est un peu comme si c'était le début de la fin de mon calvaire, quoi. Donc j'étais contente. Là, on est à Saint-Cyr. Donc là, toutes ces trucs, je l'ai repenté combien de fois en poussette avec Charlie, avec des copines mamans de maternologie, avec des infirmières, parce qu'elles viennent avec nous. Elles nous épaulent tout le temps, même quand on faisait des sorties, tout ça. Et je me disais, quoi qu'il se passe, je suis bien entourée. Et en plus, je suis entourée par des super professionnels, par le top du top. Quand je suis arrivée là la première fois, déjà ça donne une super bonne impression, quoi. C'est pas hôpital, mais ça fait pas la petite structure où on pourrait se méfier, pas sérieuse, je sais pas comment dire. Voilà, une maman qui sort avec son petit.
Alors par contre, elle sèche.
Je pense que j'avais
besoin. La paix, elle est où?
Sèche bien. Donc ma chambre était par là, avec la salle de bain qui est en face en fait. Et donc, là on a le couloir, bon, le bureau des secrétaires, tout ça. Là c'est le bureau où moi j'allais, parce qu'il y en a deux, mais là où j'allais en entretien le matin, donc avec la thérapeute et le docteur Dutré qui est la pédiatre. Et qui est très psychologue. Et donc voilà, tous les matins, on avait notre petit entretien, ce qu'on appelait notre travail. Parce qu'en fait, on travaillait sur nous, donc essayer de comprendre pourquoi. Les infirmières, au début, elles le faisaient. Ce qu'elles faisaient, c'est on va s'en occuper, reposez-vous. Et ensuite, elles nous laissent faire, et du coup, on reprend confiance aussi. Puis elles nous disent des petites phrases comme ça qui peuvent aussi nous remonter dans l'estime, ce genre de choses. Et quand on a confiance en nous, mais l'enfant est super rassuré. Parce qu'il se dit, bon, mais ça c'est maman, c'est une vraie, elle est là, elle me protège, je peux dormir. Et puis des fois je replongeais. Et des fois je replongeais parce que j'avais un mauvais jugement sur moi-même. Et par exemple, si dans la journée, mais c'était des micro-pensées d'une fraction de seconde que je pouvais me donner. Et donc les thérapeutes m'aidaient à aller chercher ces moments que j'avais eus et qui me renvoyaient des angoisses. Par exemple, je me disais, ah bah oui, tiens, mon fils... Je l'ai empêché de dormir, en fait. Parce que j'allais pas bien, donc il dormait qu'une demi-heure. Et donc, ça m'a envoyé, oh, mère indigne, voilà, un truc comme ça de culpabilité. Et donc, du coup, j'allais de nouveau pas bien. Du coup, il ne redormait pas. Et moi, j'étais pas bien. J'ai ces petites pensées comme ça dans la tête. On a toujours des pensées, et elles sont très négatives pour moi. Et je m'auto-détruis. Je sais pas comment on peut dire. Et voilà, il faut apprendre aussi à contrôler ces choses-là.
Le psychiatre a parlé d'hospitalisation. Mon mari avait vraiment pas envie. Et la seule chose qu'il nous a dit, c'est qu'on allait mettre en place un traitement, qu'il allait me donner au moins un traitement choc pour le week-end, pour un peu me faire dormir. Et que dès lundi, on commencerait un traitement. Et par contre, il fallait qu'il y ait quelqu'un toujours avec moi pendant 15 jours, 3 semaines, notamment à cause de mes idées suicidaires, en fait. Avant de prendre mes médicaments, j'ai quand même voulu tirer mon lait de tout ce que j'avais. J'avais l'impression que je voulais donner à ma fille tout ce que je pouvais. J'avais envie du bien pour elle, en fait. Et puis, on a commencé à lui donner un biberon. Donc, ça a été son premier biberon. Voilà, c'était des choses que j'avais pas imaginées. Je voulais tirer mon lait, je voulais lui apporter son premier biberon, que ce soit avec du lait maternel. Et tout ça, en fait, ça prend fin d'un coup, parce que dans la tête, ça déraille. Et c'est difficile. Et j'ai eu la chance quand même d'être extrêmement bien entourée par mon mari, par ma famille. Ils ont voulu vraiment conserver ma place de maman, en fait. Parce que je pense qu'ils m'ont fait confiance. Voilà, il y a eu... Ils ont vraiment eu tout de suite, eux, ils étaient persuadés que c'était une dépression postpartum et que c'était pas moi. C'était juste une image qui était passée là dans ma tête et que ça n'avait rien à voir avec un comportement que je pourrais avoir. Et du coup, j'ai continué à avoir les gestes que j'avais fait pendant 2 mois et demi. On m'a obligée à continuer à les faire. C'est-à-dire, parce que j'aurais voulu ne plus la changer, ne plus lui donner le bain. Et en fait, mon mari a toujours continué à me dire « Si, c'est toi qui vas le faire, mais je reste à côté de toi. Et si tu peux plus, si tu peux pas, je t'aiderai. » Donc du coup, je crois parce que je l'aime vraiment énormément, je voulais lui faire plaisir à lui. Je voulais lui montrer que je faisais des efforts, et j'ai continué à m'occuper de Clémentine. Et du coup, ça a permis justement que de pas me détacher de ma fille. Et je crois que je l'avais tellement attendue, que je l'aimais tellement fort, que c'était moi que j'aimais plus, mais pas ma fille.
Il y a plein de feutres qu'on fait de bouchons là, Clémentine.
Bah, on va prendre le noir.
Tu veux. C'est le noir. Tiens, c'est pas gris ça?
Oui, ma peau.
Ouais, on a Simon. Dès que Simon voit les feutres,
il va les prendre.
Il rapplique. Après, les feutres de Clémentine ne fonctionnent plus.
Et c'est dommage.
Effectivement, c'est dommage. On peut dire ça.
Il y a eu plein de choses. La grossesse extrêmement stressante qui a dû amener un terrain assez propice à la dépression. Ajouté au manque de sommeil, ça a été le combiné des deux qui a été l'élément déclencheur de l'horreur, en fait. Mais il y a un psychiatre en fait qui m'a expliqué aussi que j'avais peut-être un caractère plus propice que d'autres. Et on a essayé de me détailler, de voir que voilà, depuis petite, je suis quelqu'un d'assez anxieux, qui a besoin que tout soit carré, bien rangé, bien organisé. Et que bah, l'arrivée d'un enfant, ça désorganise tout. Autant dans le positif que dans le négatif, hein. Mais du coup que cette forte désorganisation m'a un peu perdue. Voilà, je pense que c'est un peu tout ça, c'est tous ces éléments qui font que j'ai fait une dépression. Mais est-ce que c'est ça? Je suis pas certaine en fait. J'aimerais bien retourner voir quelqu'un pour complètement guérir. Parce que je pense que là, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas capable de me soigner seule. Et ce n'est pas un traitement médicamenteux qui amène des solutions. C'est une vraie béquille. Et ça, de toute façon, je ne m'en serais jamais sortie sans traitement. Mais je pense qu'on est obligé d'avoir un traitement psychologique aussi pour y arriver. Et que oui, je pense qu'il sera nécessaire. Et j'en ai envie d'aller au bout, de pouvoir revivre sans toujours ce petit pourcentage qui fait que c'est pas complètement terminé et que je suis pas totalement sereine. Oui. Et je pense que voilà, j'aurais besoin d'y retourner un jour. Mais là aujourd'hui, c'est pas ma priorité en fait. Ma priorité, c'est ma famille. Ça par contre. Si la dépression m'a apporté quelque chose, je pense, c'est que c'est vraiment ça le plus important pour moi. Rendre heureux mon mari, mes enfants, et qu'on soit tous heureux, tous les quatre. Voilà.
Ça vient de mon histoire personnelle. J'ai une problématique familiale assez importante. J'ai une mère qui a eu des difficultés, voilà, et je pense qu'en grandissant, j'ai senti quelque chose sur moi que ma famille a certainement mis sans le vouloir, une sorte de responsabilité de veiller sur ma mère. Et j'ai compris que J'avais cette responsabilité qui était faussée. Une enfant ne peut pas être responsable de ses parents. Donc j'étais à la fois, il fallait que je trouve ma place de mère, moi. J'étais plus la petite fille qui devait veiller sur sa mère, mais j'étais la mère qui devait veiller sur son enfant. Il fallait que je travaille ce truc-là, il fallait débroussailler, enlever tous les trucs qui parasitent, et puis prendre sa bonne place. Puis après, quand ça a été mieux, ça y est, je suis mère. Enfin, moi, le travail sur moi que j'ai fait, c'est super positif. J'ai grandi de tout ça. C'était une épreuve dure, et puis ça m'a fait avancer. Puis je suis devenue mère, je suis devenue femme, j'ai travaillé sur plein d'autres choses, et c'est, non, c'est que du, en fait c'est pas que du, enfin c'est que du, ouais si au final ouais, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, c'est le truc, le bateau, mais c'est ça quoi, hein. Puis des fois on revient un peu en arrière, c'est dur, mais voilà, c'est, moi je suis contente d'avoir d'être passée par là et d'avoir trouvé des solutions pour en sortir. Take a little time to think things over.
C'était Mal de mer. Merci à Maya et Sophie pour nous avoir livré leur histoire. Merci à l'association Maman Blouse et au centre de maternologie de Saint-Cyr-l'École pour leur aide. Merci à Christophe Deleu et Jean-Christophe Galen. Merci enfin à la promo Radio 2012 du QEJ. Merci à Aïda, Colombe, Selma et Yann. And I'm gonna love you more. And I'm gonna love you more. And I'm gonna love you more. Spoken like a shadow.